Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un. Pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide. Bonjour, bonjour, je suis Diane et vous écoutez La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme fil par fil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui semble à première vue assez éloigné du sexisme, l'écologie. Et pourtant, regardez bien, on vit encore dans une société où certains comportements écologiques sont facilement moqués, décrits comme étant pas virils. Trier ses déchets, acheter en vrac, parler du vivant, réduire sa consommation, tout cela reste souvent associé à quelque chose de féminin ou à minima de fragile ou de moraliste. A l'inverse, la puissance continue parfois d'être représentée par la domination, l'excès, la consommation sans limite. Les grosses voitures, le refus des contraintes, l'idée qu'il faudrait profiter plutôt que se restreindre. Comme si protéger le vivant menaçait certains modèles de masculinité. Et ce lien entre écologie, pouvoir et rapport de genre n'est pas nouveau. Il porte même un nom, ça s'appelle l'écoféminisme. Le terme apparaît dans les années 1970 sous la plume de la féministe française Françoise Daubonne. Son idée est simple, mais extrêmement puissante. Les mécanismes qui permettent historiquement de dominer les femmes ressemblent beaucoup à ceux qui permettent d'exploiter la nature. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes logiques : contrôler, exploiter, extraire, posséder et rentabiliser. Et plus on regarde notre société, plus ce parallèle saute aux yeux. D'un côté, les femmes ont longtemps été associées aux soins, au corps, à l'émotion et au vivant. De l'autre, les modèles masculins dominants ont davantage valorisé la maîtrise, la conquête, la performance et la puissance. Or, notre modèle économique repose justement sur cette idée de croissance infinie, d'exploitation permanente des ressources et de domination de l'environnement. Comme si tout ce qui était vivant devait être transformé en ressources disponibles. Et cette logique produit des conséquences très concrètes. Parce que face aux catastrophes climatiques, tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Selon l'ONU, les femmes et les enfants représentent environ 80% des personnes déplacées par les catastrophes liées au changement climatique. Les sécheresses, les crises alimentaires, les populations les plus précaires sont aussi les plus vulnérables. Et dans beaucoup de régions du monde, ce sont les femmes qui assure l'accès à l'eau, à l'alimentation, aux soins et aux ressources du quotidien. Quand les terres deviennent inhabitables ou que les ressources se raréfient, ce sont elles qui absorbent en premier les conséquences. On l'a vu par exemple lors du tsunami de 2024 en Asie, dans certaines zones, jusqu'à 70% des victimes étaient des femmes. Pourquoi ? Parce que les inégalités sociales aggravent les catastrophes naturelles. Certaines femmes ne savaient pas nager, rester avec les enfants ou avaient moins accès aux informations d'évacuation. Et c'est important de le rappeler, une catastrophe dite naturelle relève souvent ces inégalités. Même chose dans l'agriculture, les femmes représentent environ 43% de la main-d'œuvre agricole mondiale, mais elles possèdent beaucoup moins de terres, ont moins accès au crédit et participent moins aux décisions politiques liées aux ressources. Autrement dit, celles qui assurent une immense partie du travail lié au vivant restent souvent exclues du pouvoir. Ceci explique peut-être que ce sont aussi très souvent des femmes qui se retrouvent au cœur des luttes écologiques. On pense évidemment à Greta Thunberg aujourd'hui, mais bien avant elle, de nombreux mouvements environnementaux majeurs ont été portés par des femmes. Dans les années 70, en Inde par exemple, le mouvement Chipko voyait des femmes enlacer physiquement des arbres pour empêcher leur abattage. Leur raisonnement était très concret. Protéger la forêt, c'était protéger l'eau, la nourriture, le chauffage, donc les conditions mêmes de la survie quotidienne. Et cette idée traverse beaucoup de mouvements écoféministes. Défendre l'environnement, ce n'est pas défendre quelque chose d'abstrait. C'est défendre les conditions matérielles de la vie. D'ailleurs, plusieurs études montrent que les femmes expriment aujourd'hui davantage d'inquiétudes face au changement climatique et sont plus nombreuses à adopter des comportements écologiques ou à s'engager dans les mobilisations environnementales. Mais attention, cela ne veut pas dire que les femmes sont naturellement plus proches de la nature. Ce serait tomber dans un vieux cliché assez essentialiste. Le vrai sujet, c'est plutôt de comprendre comment notre société associe encore certaines valeurs à quelque chose de féminin, tandis que d'autres valeurs comme la domination, la prise de risque ou la consommation excessive restent associées à une certaine idée de la virilité. Et cela se voit jusque dans les discours anti-écologie. Quand certains responsables politiques tournent les préoccupations écologiques en ridicule, quand on caricature les militants comme des fragiles, des bobos ou des hystériques, on retrouve souvent une opposition implicite entre puissance et vulnérabilité. Alors qu'au fond, continuer à détruire des ressources dont dépend notre survie collective n'a rien de particulièrement puissant. Et peut-être que le véritable enjeu est là, repenser ce qu'on valorise socialement. Parce qu'aujourd'hui encore, notre société récompense davantage ceux qui prennent, exploitent et dominent que ceux qui préservent, réparent ou protègent. Alors, détricoter le sexisme dans l'écologie, ce n'est pas seulement parler de compost ou de tote bag, c'est questionner notre rapport au pouvoir, à la consommation et à cette idée très ancrée selon laquelle la domination serait une preuve de force. Parce qu'au fond, protéger le vivant ne devrait jamais être considéré comme une faiblesse. Allez, on respire, on continue de détricoter, parce que la pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.
Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre.
Tiens, ça c'est vraiment un raisonnement complètement con.
La pelote du sexisme, la chronique qui détricote le sexisme, fil par fil.
Elles représentent la moitié de la population du globe. Elles en ont mis au monde la totalité, ce qui leur vaut depuis l'aube des temps la reconnaissance des hommes.
Garce, salope.
Tirez les fils, un par un. Pour comprendre comment ce système s'est tricoté.
Pourquoi ils veulent l'égalité ? L'égalité, elle n'existe pas déjà dans le corps de l'être humain.
Une femme a moins de droits qu'un ficus, d'accord ?
La pelote du sexisme n'est pas prête d'être vide.